Aller dans la continuité de ce que Antoine a partagé la semaine dernière. Et Antoine nous partageait la semaine dernière qu'il était important de finir notre course avec l'esprit et non selon la chair. Parce que ça venait de Paul, c'était une exhortation de Paul dans le livre des Galates, parce qu'ils étaient en fait dans la confusion de dire mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rester sous la loi? Est-ce qu'on doit encore faire des œuvres de la loi? Ou est-ce qu'on peut vivre en fait selon l'esprit, sous la grâce? Et donc c'est important de marcher avec l'Esprit du Seigneur dans nos vies. Et donc ce matin, je voudrais continuer dans la suite du message d'Antoine. Et donc on va parler du Saint-Esprit, de marcher et vivre selon le Saint-Esprit. Et donc tout d'abord, on va prendre dans le livre de Jean au chapitre 14, versets 16 à 20, et je vais reprendre quelques versets qui nous disent en fait ce qu'est le Saint-Esprit. Donc peut-être que vous êtes des nouvelles personnes au sein de l'Église, que vous découvrez, vous allez voir ce que la parole de Dieu, ce que l'Écriture dit quant au Saint-Esprit. Et pour ceux qui connaissent, ça fait du bien de redécouvrir, de se rappeler ce qu'est le Saint-Esprit, parce que quand on regarde les Écritures, on voit à quel point le Saint-Esprit est important pour nos vies.
Amen.
Amen. Donc dans Jean 14, versets 16 à 20, il est dit « Et moi, je prierai le Père ». Donc c'est Jésus qui parle. Jésus dit « Et moi, je prierai le Père ». Et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. » En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc déjà, par ce passage-là, on voit Jésus donner les attributs du Saint-Esprit. Il est dit qu'il nous enverra un autre Consolateur. Jésus était un Consolateur. Jésus est venu pour consoler, pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les maladies. Venez consoler. Là, on voit que Jésus dit « Je vous enverrai un autre Consolateur ». Il est parlé de l'esprit de vérité. C'est un esprit, le Saint-Esprit est esprit de vérité. Il nous dit également que nous ne serons pas laissés orphelins. Aucun de nous ce matin est orphelin. Si tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, et ce peu importe que tu viennes d'une famille où tu n'as pas de parents qui sont chrétiens, tu n'es pas orphelin. Et j'avais vraiment ça à cœur. Il y a des gens ce matin, vous devez entendre que peu importe d'où vous venez, que vous ayez des parents qui ne sont pas chrétiens, vous avez accepté le Seigneur dans votre vie et vous n'êtes pas orphelin et vous êtes tout aussi important et enfant de Dieu qu'un enfant qui a grandi dans une famille chrétienne et qui s'est tourné vers le Seigneur. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'en fait, par le Saint-Esprit, on connaîtra que Jésus est en son Père et que nous sommes en lui et que lui, il est en nous en disant « Je suis en vous ». Quand on accepte le Saint-Esprit, c'est Christ qui vient habiter en nous. Amen.
Amen.
On va continuer, on va voir encore ce que Jésus va dire par rapport au Saint-Esprit et nous allons prendre Jean chapitre 16, versets 7 à 9 tout d'abord. Il est dit, donc là c'est toujours Jésus qui parle à ses disciples parce que Jésus allait bientôt être crucifié. Donc il était en train de les préparer au fait qu'il allait partir et que viendrait le Saint-Esprit. Il est dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, moi Jésus, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, tu peux mettre dans la suite à la limite. « prendre là. Ok. Et ensuite, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples... Non, c'était Jean 16, versets 13 à 15. Là, on est trop loin. Je vais le prendre ici. Donc, si je reviens à ce que Jésus a dit à ses disciples, il a dit donc, « Je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Et ensuite, quand on passe, toujours donc dans Jean 16, à compter donc du verset 13, il est dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est le Saint-Esprit, le Consolateur qui nous dirige dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu, Jésus nous dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il est esprit de vérité, il est consolateur, il est notre guide. Et il ne parle pas de lui-même, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il passe son temps à nous dire ce que Jésus est, à glorifier Jésus. Il entend des choses dans les cieux et il se dépêche de venir nous le dire en disant « Tiens, toi tu es appelé à être pasteur, tu es appelé à être évangéliste. Toi, je t'ai donné tel don. Toi, il va se passer telle ou telle chose dans ta vie. » Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le relais entre les cieux et la terre. Et c'est grâce au Saint-Esprit que les cieux viennent sur la terre et nous conduisent dans la vérité. Amen. Amen. Et dans Actes 1, verset 8, on nomme aussi le Saint-Esprit comme une puissance. Tout ce matin, on a parlé de puissance. On a dit qu'il y avait une puissance dans le nom de Jésus, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous l'a révélé et au travers des Écritures. Et la parole de Dieu dit, donc vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Grâce au Saint-Esprit, grâce à sa puissance, nous pouvons être des témoins ici-bas jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et la parole de Dieu nous dit aussi qu'il nous baptisera, et ces gens qui annoncent en disant quand Jésus viendra, il nous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Amen. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du sacrifice de Jésus. Jésus lui-même disait, il est plus avantageux que je m'en aille. Et souvent, on se pose la question en disant, mais comment on aurait été en fait si Jésus était encore là? Est-ce qu'on l'aurait mieux suivi? Est-ce qu'on aurait été le cœur plus grand, ouvert, etc.? Mais Jésus nous dit, il est plus avantageux que je m'en aille et que vous receviez dans vos cœurs le Saint-Esprit, parce qu'alors ce sera Christ, alors je vivrai en vous. Je serai dans vos cœurs. Amen. Amen. Et ça, cette parole, elle est pour chacun d'entre nous. Pour chacun, peu importe d'où tu viens, ce qui s'est passé dans ta vie passée, et peu importe quels étaient tes parents, ce qu'ils ont fait, tu es enfant de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que dès lors que nous déclarons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous recevons l'Esprit du Seigneur en nous. Et tu es adopté, tu reçois l'Esprit d'adoption. Mais ensuite, il y a une autre étape, c'est d'être plongé dans la puissance de Dieu, d'être plongé dans le Saint-Esprit. Et ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est comme quand vous allez à la piscine, vous vous préparez et vous faites un grand saut dans la piscine. Bah, c'est sûr, vous avez plongé dans la piscine, vous êtes complètement mouillé. Vous êtes complètement même sous l'eau. Parfois, on touche même le fond tellement on a pris de l'élan et on est arrivé dans la piscine. Bah, avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Quand il nous plonge dans sa puissance, quand il nous plonge dans son autorité, on le sait, comme quand on a fait un grand plouf dans l'eau, quand on a fait un grand saut dans la piscine, on le sait et on est revêtu de puissance et d'autorité. Amen. Alors, quelle autorité le Seigneur nous donne ? Marc 16, verset 17. Il est dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Et on l'a déclaré ce matin. « Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Et ensuite, « S'ils boivent un quelconque breuvage mortel, » il ne leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Et Dieu nous couvre aussi d'une aptitude de dons spirituels et d'une multitude de dons. Et donc là, on ne va pas les reprendre, mais dans le livre de Corinthiens, dans l'Épître aux Corinthiens, on voit en fait que le Saint-Esprit nous couvre des dons spirituels tels que le don prophétique, le don de la foi, le discernement des esprits, vraiment les paroles de connaissance, mais aussi des paroles de sagesse nous sont données par le Saint-Esprit, le don de guérison, de miracles et de prodiges, quand il y a des guérisons dans l'Église, quand il y a des paroles de connaissance au milieu de nous, c'est par la puissance de l'Esprit, c'est pas par nos capacités intellectuelles, c'est pas par nos forces, c'est pas par qui nous sommes, c'est par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. On parle aussi des ministères, quand le mandat est donné d'apôtres, d'évangélistes, d'enseignants, de prophètes, de pasteurs, c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par rapport à ce qui est déclaré dans les cieux, et le Saint-Esprit vient donner mandat sur terre, par la puissance du Saint-Esprit. Amen, nous sommes habilités par la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a aussi, et là je veux qu'on élargisse ce matin aussi notre entendement, il y a une multitude de dons aussi qui parfois on pense qu'ils sont moins spirituels, alors qu'ils en fait sont tout aussi importants dans le corps de Christ, pour nos familles, etc., aussi dans nos vies privées. Et on va prendre Exode, chapitre 35, versets 30 à 35. Et là, en fait, on va se retrouver, donc on est dans l'Ancien Testament, et là, c'est au moment où Moïse est avec le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Et là, Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël, qu'on appelle la loi à cette époque-là. Et en fait, Dieu va demander à Moïse de construire un tabernacle. Ben, c'est bien, il est dans le désert. Donc, comment fait-il ? Comment est-ce qu'il va faire ? Et Moïse, ok, lui, son aptitude et ses capacités, c'est d'être un leader qui va sortir un peuple entier de l'esclavage et de le mener vers la terre promise. Il est capable d'être en face à face avec l'Éternel et c'est le mandat qu'il a reçu. Mais par contre, il faut construire un tabernacle. Il faut des petites mains, il faut des hommes habiles, il faut des gens qui savent faire des choses que Moïse ne sait pas forcément faire. Et là, Moïse, en fait, est en train d'expliquer au peuple qui a été choisi et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Assisamac de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Ça, c'est ce que l'Éternel est capable de faire en chacun d'entre nous. Et peut-être que tu es ce matin ici et que tu dis « Mais moi, en fait, je ne ressens pas forcément dans mon cœur d'être appelé apôtre ou pasteur ou évangéliste. » Mais c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde. Et tu es très doué dans le dessin, tu es très doué dans la décoration, de mettre les choses en place, de mettre les couleurs qui vont bien ensemble, de sculpter, de travailler le bois. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que ça a été donné par l'Esprit de Dieu. Ça a été donné par l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des hommes et des femmes ici, vous êtes doués, vous avez des mains, vous êtes habiles, vous êtes ultra doués. Et ce sont des dons qui sont tout aussi importants, qui sont importants pour l'œuvre de Dieu, qui sont importants pour nos familles. On a besoin de tous les dons, de tout ce que Dieu donne à chacun d'entre nous. Et c'est important, on voit que la parole de Dieu dit qu'ils étaient remplis de l'intelligence de Dieu, de la sagesse de Dieu. Et vous voyez parfois des hommes ou des femmes qui sont habiles et vous êtes là, moi, mon mari, il est ultra habile, pour le coup, je peux en parler, il sait faire beaucoup de choses de ses mains. Moi, je capte rien du tout. Franchement, je suis douée pour certaines choses, pour annoncer la parole de Dieu, mais travailler le bois, travailler et construire une maison, bah, je suis là, je constate. Ok, mais ça rentre pas. C'est, je sais pas comment il fait. Et il y a plein d'hommes et de femmes comme ça. Vous êtes doués pour le dessin. Vous êtes doués pour le bâtiment, pour le bois. Il y a aussi, par exemple, Étienne et Philippe, en fait, au tout début, avant que Philippe devienne un évangéliste. Mais en fait, la parole de Dieu dans les livres des Actes nous dit qu'il servait aux tables. Alors, servir aux tables, c'était pas donner la nourriture, en fait, au peuple. À l'époque, quand on parlait de servir aux tables, c'était de prendre soin des personnes qui étaient pauvres, et là, en l'occurrence, des veuves, en fait, qui étaient au milieu du peuple de Dieu. Et il y avait eu des murmures, en fait, parce que le peuple, en fait, il y avait le peuple helléniste qui considérait qu'il était moins bien traité que le peuple des Hébreux. Donc, c'était un mélange. Il y avait eu la Pentecôte, etc. Beaucoup de gens étaient venus à Dieu. Et il y avait des pauvres dont l'Église voulait s'occuper et s'occuper. Mais en fait, il y avait du favoritisme à un moment donné. Et le peuple hébreu était mieux traité que le peuple helléniste. Et donc, les disciples vont dire ceci en disant, tous ceux qui étaient apôtres et qui étaient appelés à annoncer la parole de Dieu disaient, on peut pas délaisser ça, on peut pas délaisser d'annoncer la parole de Dieu, il nous faut d'autres hommes et d'autres femmes. Donc, eux, ils savaient clairement leur appel, c'est on apporte la parole, mais on a besoin d'hommes et de femmes qui vont pouvoir nous aider dans la gestion de l'argent pour distribuer aux pauvres. Et donc là, ils ont choisi Étienne et ils ont choisi Philippe et d'autres hommes. Et on va prendre Acte 6, verset 1 à 6, parce que c'est important de voir, là aussi, pour ce service-là, comment ils ont été choisis. Donc c'est dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit, sain et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc on voit que pour un premier service, pour servir, pour aider en fait dans la gestion et pour aider les pauvres, c'était des hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit et remplis de sagesse. Et Étienne, il était tellement sage que il va faire naître de la haine dans d'autres personnes. Et les gens vont le haïr tellement il était plein de sagesse, tellement il était rempli d'esprit. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il servait, en fait, il aidait tout simplement les personnes pauvres autour de lui et il annonçait en même temps la parole de Dieu. Et Philippe, au début, il a fait comme Étienne. Et après, Philippe, il a été propulsé dans un ministère évangéliste. Ce qui ne veut pas dire non plus que parfois, en fait, on peut commencer par un service et dans les saisons de notre vie, l'appel va être déclaré pour autre chose. Et tout comme parfois des pasteurs, par exemple Alex, il est pasteur, mais il sait aussi travailler le bois. Donc c'est une multitude de dons et de dons particuliers qui sont donnés à chacun. Et chacun est important et chacun a son identité en Christ. Et chacun, dans les dons qu'il a, est appelé à être revêtu de l'Esprit du Seigneur, de puissance, de sagesse et d'intelligence. Amen. Amen. J'ai commencé à quelle heure? À quelle heure? 11h10? D'accord, ok, ça marche. Du coup, je me dis, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Donc voilà, c'est important pour chacun d'entre nous de se dire que ce n'est pas que les apôtres, que les enseignants, que les évangélistes, que les prophètes qui sont amenés à être remplis du Saint-Esprit. C'est chacun d'entre nous, tous les jours, dans notre vie, au quotidien. Parce qu'on ne sait pas comment Dieu va vouloir amener quelqu'un au Seigneur. On ne sait pas qui autour de nous est malade et va être guéri, par quelle main, par qui, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Et vous savez, par rapport à ça, j'avais vraiment à cœur de vous témoigner par rapport à ma maman. Parce que, en fait, ma mère, je trouve que c'est une femme de l'ombre, en fait. Elle s'est tenue dans la prière pour ses 4 enfants. Elle a le don prophétique, mais elle n'a jamais prêché, elle n'a jamais été devant, sur l'estrade, etc. Mais elle s'est tenue comme une guerrière avant même qu'on naisse, pendant ses grossesses et jusqu'à aujourd'hui. Et pour ses petits-enfants, elle se tient ferme dans la prière. Et quand elle était jeune et quand elle nous attendait, en fait, elle a failli nous perdre. Et en fait, elle a été inspirée par le Saint-Esprit à dire « Ok, moi, je n'ai pas le sang comme avec le peuple d'Israël, quand l'esprit de mort devait passer, je n'ai pas du sang à mettre sur moi. » Et donc, elle a dit « Bah voilà, Seigneur, je vais mettre de la salive. » Elle a fait quelque chose de fou, d'inimaginable. Elle dit « Je vais mettre de la salive et je vais en mettre de la tête aux pieds. » C'est dégueulasse, hein? Soyons vrais, c'est space de faire ça. Et c'est pas une doctrine non plus. Ça veut pas dire que toute femme qui a un problème de grossesse doit forcément prendre sa salive et commencer à se badigeonner de salive. Mais c'est ce qu'elle a été inspirée de faire. Et elle nous a toujours raconté ça en disant la nuit même, elle a été traversée d'un courant, de la puissance du Saint-Esprit et elle nous a gardé en vie. Les infirmiers, les médecins disaient, ça va être une grossesse qui va pas aller à terme. Elle a dit, non, non, elle nous parlait, elle a mis la salive. Et on est là et on sert le Seigneur. Amen. Et elle l'a fait en tant que maman. Elle ne l'a pas fait en tant que prophète, en tant que j'ai le don de guérison. Elle l'a fait en tant que mère, en tant qu'une femme qui était confrontée à une situation difficile. Et c'est important, en tant que papa, en tant que maman, jeune homme, jeune fille, quoi que tu fasses dans ta vie, tu peux être confronté à des choses où tu as besoin du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, on parle souvent du baptême du Saint-Esprit et de tous ces dons-là, mais le baptême du Saint-Esprit apporte encore d'autres choses dans nos vies. Et on l'a dit ce matin, et ça, on a parlé en fait de la restauration, de la consolation. Et par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur est capable d'amener de la consolation là où on pense que c'est complètement fichu. Là où on se dit qu'on est beaucoup trop endeuillé, qu'on est vraiment trop éprouvé. Et la preuve en est, c'est que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. C'est le nom, et Jésus dit, mais c'est un autre consolateur, je vous envoie le consolateur. Et là, on peut afficher 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 5. Et là, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il leur dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Et je crois profondément, et je l'ai vécu, mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas le temps ni encore la saison, mais Claude et moi avons été éprouvés, mais moi j'ai été éprouvée au-delà même, j'estimais, de mes forces, je me disais, un jour je suis rentrée chez moi et je disais à Dieu, je suis morte en fait, et je disais à Dieu, je prêcherai plus jamais. Je serai plus jamais capable de prophétiser. Je suis complètement morte et je faisais pas semblant devant Dieu. C'était pas on m'a marché sur le pied, ça va, j'ai pas mal, je fais semblant. J'étais complètement déglinguée. Je souffrais énormément. Et je disais à Dieu, je me rappelle, je pleurais et j'étais devant ma glace et je disais à Dieu, je ne sais pas si là tu es capable de consoler. » Et je me disais, je ferai partie de ces femmes qui se rappelleront d'épisodes noirs dans leur vie et je traînerai ça jusqu'à la fin de ma vie et je finirai, excusez-moi, mais dans mon cercueil avec tous ces événements en tête, en fait, en me disant, bah voilà, et à telle date, je serai amère, je serai triste. Et j'ai dit à Dieu, je ne sais pas si tu es capable de me consoler de tel deuil. Et le Seigneur, en fait, m'a montré qu'il est largement capable de le faire. Mais il n'a pas fait une fois, il a fait plusieurs fois parce qu'on a été éprouvés plusieurs fois. Et à chaque fois que ça a été difficile, ou pour moi, c'était une question de vraiment de vie ou de mort, ou si Dieu ne nous ramenait pas à la vie, ma personne ne pouvait le faire. Et le Saint-Esprit l'a fait, et il l'a fait plein de fois, et plein de fois. Et le baptême du Saint-Esprit, eh bien, c'est ça aussi, c'est pour amener la consolation dans les deuils profonds, dans les traumatismes, dans les blessures. Et vous savez, une fois, je parlais avec un médecin, et en fait, et je lui explique un jour ce qui s'est passé à l'église, c'était au PEPS. Et en fait, j'avais un problème de santé, et Dieu m'avait visité. Mais je savais qu'il m'avait énormément consolée. J'avais dit à Claude, il m'a consolée comme au mois de novembre où Dieu m'avait énormément consolée aussi. Et en fait, quand je vais parler au médecin, elle va me dire, mais qu'est-ce que vous avez vécu ? Et là, en fait, ça m'a fait tilt dans ma tête. Je dis, bah voilà, en fait, j'ai reçu une puissance sur moi qui est venue là où j'avais mal, où toutes mes douleurs étaient enracinées et tout est parti et tout a expulsé, en fait. Et après, quand je me suis relevée, mais en fait, j'avais plus ce deuil que je portais. Mais je disais, j'ai reçu une puissance sur moi. Et c'est ça, le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui console. Amen. On va prendre aussi Romains 15, verset 13. Et on va voir aussi ce que le baptême du Saint-Esprit est capable de nous apporter. Il est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Comment être renouvelé? Comment espérer à 70 ans, à 80 ans, dans les différentes époques de notre vie? Comment continuer à espérer en l'Éternel quand parfois des choses qu'on attend profondément ne viennent pas? La Bible dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Comment espérer ce qui ne vient pas? Comment continuer à croire en Jésus quand on est éprouvé parfois au-delà de nos forces? Par le baptême du Saint-Esprit qui vient et qui renouvelle l'espérance dans nos cœurs, l'espérance dans nos âmes, l'espérance, la force dans nos corps. Amen. 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 Et ça, c'est important quand l'Esprit du Seigneur vient. Il vient pour habiliter de dons. Il vient pour remplir de sagesse, d'intelligence et d'autorité. Il vient pour consoler avec puissance. Il vient pour apporter une nouvelle espérance avec puissance. Amen. Et vous savez, par rapport à l'espérance, là aussi, un jour, je disais à Dieu, parce que moi, normalement, à base, je suis une bonne rêveuse. Et je disais à Dieu, comme j'étais vraiment au bout du rouleau, je sais pas, en fait, maintenant, je vais changer ma manière de penser et je vais vivre au jour le jour en disant, ça n'a rien d'espérer parce qu'en fait, espérer, ça me fait trop mal au cœur et en plus, ça ne vient pas et ça part en cacahuète. Donc, je disais ça à Dieu et je disais ça aussi à quelqu'un. Je parlais avec quelqu'un en disant, j'arrête d'espérer, j'ai trop mal au cœur, j'espère plus. Et à l'instant même où je disais ça, Dieu me disait, si tu dis ça et si tu veux rentrer dans ça, ça veut dire que tu acceptes de ne plus connaître une partie de moi. Parce que Dieu est appelé dans la Bible le Dieu de l'espérance. Et c'est dur de parfois continuer à espérer quand tout est noir, quand tout va mal, quand on estime être éprouvé même au-delà de ce qu'on est capable de supporter. Mais Dieu est un Dieu d'espérance qui peut amener l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Tout ça, c'est un super beau programme d'être baptisé dans la puissance du Saint-Esprit pour les dons, pour l'espérance, pour la consolation, pour les miracles et pour les prodiges. Mais la vie de l'Esprit ne s'arrête pas là et ne se limite pas à la puissance du Saint-Esprit. Et finalement, et je pense que beaucoup, on a pu le vivre, on a été plongé dans la puissance et l'autorité de Jésus. On a été plongé vraiment avec puissance et parfois même pendant des heures. Mais finalement, on se rend compte aussi très vite que on est toujours dans notre chair et qu'il y a toujours des combats et qu'on doit finalement aussi constamment crucifier notre chair jour après jour. Et vivre de l'esprit, ce n'est pas que chercher les expériences surnaturelles, aussi bonnes soient-elles, aussi géniales soient-elles, aussi grands sont les témoignages. Mais Jésus est allé sur la croix et il nous a dit que nous aussi, on allait devoir crucifier notre chair. Romains 6, si on peut prendre Romains 6, versets 12 à 14. Il est dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Amen.
Amen.
Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. On a une puissance face au péché. Et on peut vivre de superbes choses dans l'esprit, mais dans les jours qui viennent, être confronté à des tentations, à des pensées. Et on doit suivre la parole de Dieu et on sera la suivre en crucifiant notre chair. En crucifiant notre chair. Et Paul le dira aussi aux Galates en disant, il leur dit, ok, attendez, là vous repartez sous la loi, moi je vous dis, restez sous la grâce, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais ne marchez pas selon la chair, selon les convoitises de la chair, marchez selon ce que l'Esprit veut. Et les convoitises de la chair, on connaît, sont les tentations, l'adultère, l'impudicité, la médisance, les provocations, les disputes, l'amertume, tout ça, tout ce qui vient pourrir nos cœurs et nos vies. Eh bien ça, on va être capable, on doit les crucifier, on doit crucifier tout ça, on doit crucifier notre chair. La vie de l'esprit avec le Saint-Esprit dans la puissance de l'esprit, mais en crucifiant notre chair. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu et c'est important pour les jeunes gens et pour les jeunes filles, tout ce que vous allez vivre comme expérience avec le Saint-Esprit. N'oubliez jamais que, ok, c'est génial, mais chaque jour, il faut crucifier sa chair. Et le Saint-Esprit aussi, vivre par le Saint-Esprit, eh bien, c'est aussi vivre avec la parole de Dieu. Essayez de connaître la parole de Dieu. Parce que tout à l'heure, on a vu, Jésus a dit que le Saint-Esprit était celui qui nous conduisait dans toute la vérité. Et être conduit dans la vérité, c'est connaître la parole de Dieu. C'est génial tout ce qu'on vit dans le Saint-Esprit. Mais si on ne connaît pas la parole de Dieu, comment on fait quand des gens arrivent avec des doctrines qui ne sont pas les bonnes, quand les gens veulent nous mettre sous des jougs qui ne sont pas les bons? Eh bien, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et aussi pour le péché, comment savoir? Pour l'amour fraternel, comment savoir comment je dois agir si je n'ai pas la parole de Dieu? Si je reste pas dedans? Et le Saint-Esprit ne sera jamais heurté qu'on prenne du temps dans la parole de Dieu. Parce que parfois, on veut tellement vivre des choses hyper puissantes et surnaturelles qu'on se dit, ah non, mais si je lis la Bible, ça fait moins spirituel, ça fait moins extravagant, ça fait moins puissant. Mais il y a une puissance quand on lit la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit connaît la parole de Dieu. Et les deux matchent ensemble. Et la parole de Dieu parle du Saint-Esprit. Tout est conforme. Il n'y en a pas un qui est contre l'autre. C'est ensemble. Amen.
Amen.
On a vraiment besoin de connaître cette parole, de la méditer, afin de rester ancré en Christ. Parce que là aussi, quand les épreuves viennent, quand le temps où le Saint-Esprit n'agit peut-être plus à un moment donné dans ta vie aussi puissamment qu'il l'a été, eh bien c'est la parole de Dieu qui va garder nos pas. C'est la parole de Dieu qui va garder nos cœurs. C'est la parole de Dieu qui va nous dire, ok, Christ, il est comme ça. Il est, oui, doux et humble de cœur quand j'ai le cœur brisé, quand j'ai une difficulté avec le péché. La Bible me dit que je suis vainqueur face au péché. Amen.
Amen.
Amen. Et ce matin, je vous pose cette question en disant, où est-ce que tu en es en fait avec le Saint-Esprit? Où est-ce que tu en es dans... par rapport à tes dons? Où est-ce que tu en es par rapport à la parole de Dieu? Où est-ce que tu en es dans la crucifixion de ta chair, dans le fait de mettre ta chair sur la croix? Où est-ce que nous en sommes chacun d'entre nous? Et je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Et vraiment, en fait, de prendre ce temps en disant, vraiment, laisse ton cœur être sondé par Dieu. Demande à Dieu en disant, par rapport au Saint-Esprit, par rapport à la parole, par rapport au péché, où est-ce que j'en suis ? Et peut-être que pour toi, jusqu'à maintenant, vivre par le Saint-Esprit n'a été qu'une recherche d'expérience et d'aller d'expérience en expérience. Et quand tu ne vis pas l'expérience, tu te sens comme abandonné de Dieu, comme quelque chose qui ne va pas. Eh bien, ce matin, Dieu veut te parler. Peut-être au contraire que tu es dans le « c'est bon, j'ai vécu une fois le baptême du Saint-Esprit et être replongé dans la puissance de Dieu, ça ne m'intéresse pas trop, je préfère être sage, je préfère avoir bonne figure devant tout le monde, je n'ai pas envie d'être extraverti, je n'ai pas envie de me mettre à parler en langue. » Mais tu auras toi aussi quelque chose dans la puissance du Saint-Esprit. Ou peut-être que tu as encore du mal à lire la parole de Dieu. Tu sais que Dieu t'a rempli d'esprit, mais tu n'arrives pas encore à être pleinement convaincu qu'il faut lire la parole de Dieu pour être aussi rempli. Eh bien, l'Éternel, ce matin, va te parler. Et tu peux mettre ton cœur à nu devant Dieu et l'Éternel va t'aider. Et peut-être aussi que ce matin, tu n'as jamais connu le baptême du Saint-Esprit et que tu veux le connaître. Et bien, dans ce cas, je vais t'inviter à t'avancer. On va prier pour toi. Et peut-être que tu as besoin du baptême du Saint-Esprit pour la consolation et pour l'espérance, parce que tu n'as plus l'espérance ou tu es trop endeuillé pour continuer à avancer avec le Seigneur. Eh bien, là aussi, je vais t'inviter à t'avancer. On va prier pour que le Saint-Esprit puisse te renouveler, te guérir. Amen.
Amen.
Donc ça fait beaucoup de choses. Donc on va laisser le groupe de louanges entreprendre un chant. Et en même temps, ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, ceux qui veulent être touchés par Dieu aussi ce matin, je vais vous inviter à venir devant. Et l'équipe des Sentinelles, je vais vous inviter aussi à venir pour prier pour les uns et pour les autres. Et à ceux qui ne s'avanceront pas, je vais vous demander ce matin de laisser vos cœurs être sondés par Dieu. Parce que ce n'est pas pour rien que l'Éternel parle de dimanche en dimanche sur le Saint-Esprit, sur la sainteté, sur la croix. Et nous avons besoin ce matin de mettre nos cœurs à nu devant l'Éternel et de lui dire « Viens encore me visiter, viens encore me laver de tout péché, viens encore me plonger dans ta rivière d'amour, viens me consoler, viens me guérir. » Alléluia! Si vous pouvez vous lever de vos chaises et commencer à adorer le Seigneur, commencez à adorer le Seigneur. Et ceux qui veulent recevoir la prière, avancez-vous. Et ceux qui restent à leur place,